I'd like to have a democracy.
Suite de notre série d'interviews des candidats aux élections municipales 2020 à Arras, série proposée en collaboration avec La Voix du Nord. Avec moi pour poser des questions, Hubert Ferré, journaliste et rédacteur en chef adjoint à La Voix du Nord Arras. Salut Hubert.
Salut Nico.
Nos invités aujourd'hui, Alban Euzel, Véronique Loire de la liste Rassemblement pour Arras. L'extrême droite au micro de Radio PFM. Alors, vous avez des trajectoires différentes. Hein. Alban Euzel, vous êtes un ancien jeune de l'UMP, c'est ça ?
Bonjour. Tout d'abord, on n'est pas d'extrême droite, hein, je dois le préciser. Donc, c'est souvent le qualificatif employé par nos adversaires politiques. Mais je ne me considère pas comme étant d'extrême droite. Voilà. Donc, oui, pour votre question, j'ai été à l'UMP... en 2009, je suis resté un an ou deux. Et puis, comme j'avais expliqué à l'époque, très vite, j'ai vu que ça ne correspondait pas à mes idées, notamment sur l'Europe, puisque moi, là, je suis pour l'Europe des Nations. Et donc, très vite, en 2012, j'ai rejoint à l'époque donc, le Front National de l'époque.
Véronique Loire, vous, c'est encore plus compliqué. Hein. Ancienne conseillère municipale du groupe majoritaire, vous avez quitté ce groupe en 2012. Conseillère d'opposition élue avec la liste citoyenne menée par François Desmazières et aujourd'hui donc sur la liste du Rassemblement National.
Bah oui, mais c'est toujours sous l'étiquette Debout la France. Vous pouvez reprendre les articles des journaux de La Voix du Nord, justement. C'était, il y avait un grand article de Debout la France au Parti communiste parce qu'il y avait Jacques Patrice sur la liste. Et j'ai quitté en 2012 parce que je ne pouvais pas travailler avec Frédéric Le Turc.
Alors pourquoi vous ne pouviez pas travailler avec Frédéric Le Turc ?
Alors j'espère qu'il ne va pas encore déposer une plainte contre moi. Mais moi je veux travailler avec des gens honnêtes.
Donc Frédéric Le Turc n'est pas honnête ?
Ah bah je ne sais pas, vous prenez comme vous voulez.
Ça commence bien. Alors comment vous jugez le bilan de la majorité actuelle, celle menée par Frédéric Le Turc à la tête de la mairie ?
Alors, le bilan est mitigé concernant l'attractivité. Ça, c'est un peu, c'est le fil rouge de notre campagne, puisque nous, nous basons sur des chiffres, des faits objectifs. Par exemple, Arras a vu sa population diminuer depuis 10 ans. Et puis également, ça, les Arrasois peuvent constater aussi les problèmes au niveau des commerces. Notamment, les commerces souffrent au niveau de en bas la rue Saint-Aubert, niveau de Méolens, place de la Gare. Donc voilà, je n'ai pas cité tous les commerces qui ont fermé dernièrement, mais il y a des commerces emblématiques qui ont fermé.
Comme quoi alors
Bah écoutez, il y a le bistrot du Boucher, il y a le Carnot, enfin voilà, différents commerces. Mais si vous voulez, et puis également, donc je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la baisse du nombre de la population, il y avait un article, dans votre journal je crois même, où on estimait qu'il y avait 1600 habitants en moins depuis 10 ans.
Hubert ?
Pour le commerce, justement, Frédéric Le Turc, qui était à ce même micro hier, nous disait qu'il y avait 17% de vacances de commerce, de bâtiments vacants en 2014, contre 7 à 9% aujourd'hui. C'est donc qu'il y a du mieux.
Écoutez, je me base aussi sur les chiffres des emplois commerciaux à Arras. Il y a un article récent qui expliquait que les emplois commerciaux en centre-ville avaient diminué dernièrement. Donc évidemment, il y a une augmentation des emplois commerciaux quand on se base par rapport à la périphérie, parce que les centres commerciaux en périphérie s'étendent. Mais quand on regarde les emplois commerciaux au niveau de l'hypercentre, c'est en diminution.
Donc vous êtes contre l'extension des zones commerciales en périphérie et vous défendez le commerce de centre-ville, c'est ça ?
Bah, je crois que c'est assez étendu quand même en périphérie qu'il faut stopper. Et puis également, même pour les questions, je réponds à vos confrères par rapport à l'écologie, quand on étend toujours des terrains, des zones commerciales de bétonnage en périphérie, pour les zones agricoles, forcément, ça a aussi des conséquences écologiques. Donc ça, c'est aussi un point. Et puis, comme on disait sur le commerce, évidemment, plus on étend les zones commerciales en périphérie, plus ça a un impact sur le commerce de centre-ville.
Hubert ?
Oui, l'une des solutions, selon le Rassemblement national, pardon, à ce problème pour le commerce, c'est de vous aller un petit peu à contre-courant des autres listes qui disent
on assume.
Stop les voitures dans le centre-ville et vous les invitez justement à y rester ou à y revenir plus nombreuses. Alors, en instaurant une zone bleue, c'est ça ?
Nous ne sommes pas pour le tout voiture non plus, mais il faut quand même un équilibre. Là, on a quand même des politiques menées ces dernières années qui vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire la politique anti-voiture. Pour un commerce, moi j'ai aussi travaillé dans le commerce et je connais des commerçants. Ce qui compte dans un commerce, c'est premièrement l'emplacement, deuxièmement l'emplacement, troisièmement l'emplacement. C'est ça qui compte. Et quand on parle d'emplacement, c'est toujours lié aussi au stationnement. Pourquoi les grandes surfaces ça marche, enfin, jusqu'à maintenant? C'est parce que les gens peuvent se garer gratuitement, tranquillement, faire leurs courses sereinement. En ville, voilà, c'est difficile de faire ses courses si c'est pour mettre une pièce dans le parc-mètre, regarder sa montre toutes les demi-heures. Donc nous, ce que nous voulons, c'est le stationnement gratuit, sauf évidemment dans certaines zones en hyper-centre, une zone bleue, limitée par exemple à 1h30, pour que les gens aient le temps de faire leurs achats. Et également, il faut aussi fluidifier la circulation. Donc dans certaines communes, on prend l'exemple, par exemple, ce qui a été fait, on souhaiterait supprimer par exemple des feux tricolores et remplacer par des CD de passage et ronds-points pour fluidifier la circulation. Et en même temps, ça évite aussi les bouchons et ça peut être aussi un plus pour l'environnement.
Est-ce que c'est en cohérence tout ça justement avec l'urgence climatique là, c'est quand même plus de bagnoles. Puis je veux dire, à Arras, la contrainte sur les voitures, elle est quand même, légère. Hein. Si on regarde la ville, ça ressemble un peu à un parking quand même.
Oh, pas du tout, non. Mais c'est pas plus de voitures, c'est vraiment fluidifier la circulation et permettre aux gens qui veulent faire des achats de pouvoir au moins se stationner pendant 1h30, 2h. Sans avoir de sans regarder sa montre et pouvoir vraiment faire des achats sereinement en centre-ville chez nos commerçants. Mais c'est pas notre seule mesure pour les commerces.
Véronique Loire.
Oui, et revoir aussi les bus. Il faut mettre plus de bus, plus de navettes en centre-ville parce que les bus ne passent pas en centre-ville. Il faut revoir tout la circulation des bus et la fréquence des bus.
Justement, les propositions qui sont faites à ce niveau avec des systèmes de navettes gratuites comme la citadine, des parkings relais en périphérie, ça vous semble pas juste, ça vous semble pas intéressant?
C'était notre idée en 2014 avec François. Hein.
Tu peux parler du côté sud.
Oui, et en plus, voilà, moi qui habite au sud, nous n'avons rien. Derrière la gare, nous sommes complètement oubliés, et comme je l'ai dit, sauf pour les taxes. Parce que là, on nous a mis des zones bleues, mais l'adjoint à la circulation nous a dit, si vous n'êtes pas content, après notre réélection, n'est-ce pas, on vous mettra des parcs-mètres. Donc, il faut arrêter là, ce système de taxes à tout va. Hein, et il faut mettre la citadine ou une navette, hein, peut-être qu'on l'appellera autrement, aussi au quartier sud pour que les gens du sud puissent aller en centre-ville. J'ai une amie qui habite Pierre-Bol, elle dit maintenant on n'a même plus de bus dans Pierre-Bol, alors qu'il y a quand même de la concentration humaine là-bas. Hein. Donc on est vraiment au sud, on est vraiment les oubliés.
En parlant de taxes et de finances publiques, l'une de vos critiques concerne justement les finances publiques à Arras. Il y a un problème là-dessus
Bah écoutez, si vous avez assisté à nos différents conseils municipaux durant le dernier mandat, plusieurs fois je suis intervenu sur le budget, puisque nous avons estimé que Arras s'endettait trop. Là, je me base sur les chiffres de 2019, puisqu'il y a eu un rapport d'orientation budgétaire l'année dernière pour les prévisions jusqu'à 2022. Donc, il était prévu à l'époque d'avoir une dette supplémentaire de plus de 10 millions d'euros. Là, cette année, on n'a pas eu droit au débat budgétaire avant l'élection. Donc, c'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, j'espère que si Monsieur Le Turc est réélu, qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Mais ce que je critique, voilà, c'est qu'on continue à s'endetter, mais voilà, pourtant, les taux d'imposition ne diminuent pas. La pression fiscale évolue quand même, augmente. Mais pourtant, la dette continue à augmenter. Pour moi, c'est trop excessif tout ça.
Hubert ?
Ouais, vous allez même plus loin sur quant au non-vote du budget là, avant les élections. Vous vous demandez si on ne cache pas quelque chose ?
C'est une question légitime. Puisque dans d'autres communes, le vote a eu lieu. Chaque année, vous êtes témoin, chaque année, on débat des orientations budgétaires dès le début février, et puis là, rien. Alors qu'il y en a des communes qui ont avancé les débats, qui ont fait ça en décembre, en janvier, des communes dans la région, et puis Arras, non, pas silence radio.
Le Rassemblement National, on connaît les problèmes financiers en ce moment, et c'est un parti qui a des leçons à donner sur la gestion financière.
Alors, ça n'a rien à voir. Les problèmes financiers, ça concerne le mouvement, mais c'est parce que les banques françaises ne prêtent pas. Donc si on était en véritable démocratie, que les banques jouaient leur rôle, il n'y aurait aucun problème. Le problème, c'est que voilà, on a des difficultés pour emprunter, pour pouvoir faire des campagnes, puisque voilà, les banques françaises ne souhaitent pas nous prêter de l'argent. Donc il faut nous expliquer comment on peut faire campagne comme ça. Il y a une promesse d'Emmanuel Macron qui voulait créer une banque de la démocratie. Bah, nous attendons toujours les actes.
Alors, un des thèmes de campagne, sans surprise, c'est la sécurité. Je vais citer un extrait de votre programme. Nous doublerons les effectifs de la police municipale, présence des agents municipaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous armerons les policiers municipaux après des formations pour leur protection et celle de la population. Alors, vous allez donner quoi ? Des LBD à tous les policiers municipaux qui a un problème particulier de sécurité à Arras ?
Les policiers municipaux, la majorité des policiers municipaux en France sont armés. Donc je vois pourquoi en France, à Arras, ça ne serait pas le cas. C'est pour leur protection, puisque quand il y a des événements importants, de toute façon, que ce soit le marché de Noël ou d'autres événements, s'il y a ce qu'on appelle un déséquilibré, les déséquilibrés ne font pas la différence entre les uniformes, hein, entre un uniforme de la police nationale et un uniforme de la police municipale. Donc c'est normal que les policiers municipaux, ils ont la trouille, ils ont peur quand ils sont démunis face à de potentiels déséquilibrés. Donc c'est normal que pour leur protection, ils puissent être armés, mais forcément après des formations adéquates. Tout ça c'est prévu, et encore une fois, ça dépasse les clivages politiques. Plus de la moitié des policiers municipaux en France sont armés.
Vous incarnez un peu le nouveau visage de l'ex-FN, une face lisse, pas de propos qui dépassent ou qui dépassent trop. Cette année, il n'y a pas, par exemple, dans vos documents de campagne, de propos anti-roms ou à l'égard des musulmans.
Nous n'avons jamais
migrants,
eu de propos anti-migrants, anti-roms et anti-musulmans.
Il me semble que dans la précédente campagne, il y avait quand même. Il n'y aura pas de camp d'installation de camps en ville, des choses comme ça.
Mais non, mais encore une fois, on n'attaque pas les personnes, on n'attaque pas les roms, les musulmans, etc. C'est pas ça.
Les personnes LGBT
Pas non plus, non plus. Quand on parle d'immigration, c'est par rapport au phénomène migratoire, c'est parce que c'est un problème national. Mais ça, bon, c'est pas le sujet du jour. Mais c'est des sujets, voilà, c'est parce que c'est sur le phénomène de l'immigration, il faut savoir mettre des règles, mais on n'attaque pas les personnes en tant que telles. Phénomène LGBT, on n'attaque pas non plus les LGBT, je ne sais pas pourquoi vous sortez ça.
Mais vous n'avez pas voté les subventions non plus accordées à Arthaud Gallion.
Non, ça c'est moi.
Moi j'ai voté, si. J'ai voté à l'époque, si. Vous regardez vos fiches, mais si. J'ai Arthaud Gallion, j'avais voté. Je m'étais pas opposé à ce qu'on mette à disposition des salles, qu'on même une subvention en soutien. Maintenant, il y avait des réserves par rapport à ce qui pouvait, comment ça pouvait être géré. Peut-être Véronique dire
un mot. Puisque j'avais raison en fait. Dans votre journal aussi, la semaine dernière, LGBT se divise parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la gestion. Donc j'avais raison dès le départ. J'ai posé la question, pourquoi une subvention en plus qui a quadruplé en 6 mois de temps à une association qui fait partie de l'UDAF, c'est ce que Jean-Pierre Ferry nous avait expliqué en long, en large et en travers, que c'était une association qui était avec l'UDAF et puis il faisait des missions. Alors j'ai dit, pourquoi subventionner une association qui fait déjà des choses, qu'on donne la subvention à l'UDAF, c'est pour ça que je m'étais opposée.
Et c'est pas pour ces LGBT en tant que tel.
Et si c'est pour aller dans les écoles et tout ça, je suis entièrement d'accord. Je suis une mère de famille et je fais très attention à tout ce qui est école. Mais si c'est pour faire la Gay Pride, je suis désolée. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Dans le journal, c'est ce qui était écrit. Donc, j'avais raison dès le départ.
C'est-à-dire, vous êtes contre le fait qu'il y ait une Gay Pride à Arras hein ?
Alors, demandez aux commerçants. Demandez aux commerçants ce qu'ils en pensent.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent les commerçants ?
Les commerçants, quand la Gay Pride passe, d'abord, ils ne font rien, parce que ça dure 2 heures, 3 heures, souvent un samedi, le jour où il y a le plus de chalands. On colle des étiquettes sur les... Je vous rapporte ce qui nous a été dit. On colle des autocollants sur les vitrines et les commerçants sont obligés de passer le dimanche à décoller les autocollants. Enfin, bon...
C'est la sensation, c'est le... Le manque de consommation ce jour-là, ou il y a d'autres raisons ? Il y a une raison sur...
C'est la consommation, c'est le ras-le-bol de toujours, mais que ce soit la Gay Pride ou d'autres défilés, quoi. C'est toujours dans les mêmes rues, c'est toujours les mêmes commerçants qui sont impactés. C'est un petit peu un ras-le-bol.
C'est sur la forme par rapport à la Gay Pride.
C'est pas contre les homosexuels. Vous ne pouvez pas me jeter la pierre sur ça. Quand j'étais présidente des parents d'élèves il y a 30 ans, j'avais demandé à un homosexuel, juif, d'être vice-président dans une école catholique. Donc vous ne pouvez pas me jeter la pierre en disant que je suis homophobe.
Et puis, bon, on est favorable à l'aide aux associations, par exemple, qui recueillent les jeunes qui sont un peu exclus par leur famille. Et ça, vraiment, je soutiens cela.
Dans votre programme, toujours, il est question de culture et de mettre en avant des fêtes culturelles en rapport avec l'identité d'Arras. Alors, moi qui suis arrageois, voilà, je suis né là, j'ai grandi là. C'est quoi l'identité arrageoise en fait?
Non, vraiment, développer les fêtes d'Arras. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fête des allées vers le jardin du gouverneur à l'époque. Alors, moi j'étais petit, je ne me rappelle pas, mais on m'a raconté ça. Des amis m'ont expliqué comment ça se passait à l'époque. Et voilà, on pourrait remettre ça aussi un peu au goût du jour.
Ça n'existe pas, il y a la fête de l'andouillette.
Oui, mais bon, il n'y a pas qu'une fois dans l'année, voilà, il y a aussi, je vous dis, il y a la fête des allées, je vais vous parler de ça, hein, c'est pas... Mais non, mais la fête de l'andouillette, c'est très bien, hein, c'est très bien. On continuera.
D'autres choses, d'autres éléments sur la...
Non, après, voilà,
l'identité arageoise, c'est la fête des allées.
Mais après, c'est, voilà, travailler avec les associations, il y a, par exemple, la programmation du kiosque au jardin du gouverneur, aider les associations qui vont promouvoir aussi le patrimoine, la culture arageoise, c'est vraiment axé sur ça.
Alors le patrimoine, justement, on va un petit mot là-dessus, parce qu'on a posé la question, c'est un sujet de campagne, l'abbaye Saint-Val, le projet d'hôtel de luxe à l'abbaye Saint-Val, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi j'attends de voir, parce que là on est au tout début, donc il n'y a encore rien de fait, moi j'étais avec d'autres élus dans la commission qui étudiaient un peu les candidatures, voir un peu les prémices, donc pour l'instant il n'y a rien de fait, donc maintenant, forcément, si dans les mois à venir, on s'aperçoit que ça dénature vraiment l'ensemble, je m'y opposerai. Mais pour l'instant, voilà, moi, je suis pragmatique. J'attends de voir ce qu'on va me proposer. Donc, voilà.
Véronique Loire, sur l'abbaye Saint-Va?
Oh, je suis pas tout à fait d'accord.
Un point de dissension entre vous, alors?
Oui, c'est ça, la démocratie.
On discute, on débat.
On discute, voilà.
On débat. Ouais.
Qu'est-ce qui vous dérange dans le projet de
l'abbaye Saint-Va? Le financement.
C'était important, oui.
Voilà, hein, le financement. Et puis, au départ, avec Jean-Marie Van Lurenberg, c'était prévu de mettre
le conservatoire.
Hein, tout était prévu pour mettre le conservatoire. J'étais quand même déléguée aux appels d'offres. Tous les appels d'offres avaient été passés pour qu'on mette le conservatoire à cet endroit-là. Frédéric Le Turc a tout changé quand il est arrivé. Il a dit on va mettre ça là-bas. Ouais, sûrement qu'il avait déjà son idée.
C'est un des engagements de l'État. L'État, normalement, devait mettre la main à la poche. Et puis, finalement, il y a eu des restrictions.
À la poche, pourquoi?
Pour le projet de grand pôle culturel là-bas.
Non, c'était mettre le conservatoire. Tout était prêt. Hein. On avait même fait des immenses ascenseurs pour pouvoir monter les pianos et tout ça. Tout était fait pour que ce soit le conservatoire à cet endroit-là. Dès l'arrivée de Frédéric Le Turc, il a dit stop.
Qui aurait décidé ça?
Sûrement qu'il avait déjà son idée derrière la tête. Hein. De toute façon, Frédéric Le Turc, c'est les dépenses. Comment on va payer, ça, on ne sait pas. Hein.
Là, on est d'accord. C'est, de toute façon, il faut préserver vraiment l'identité, le bâtiment du Palais Saint-Va. Donc ça, on sera très vigilant sur cette question.
Pareil, au sous-sol, c'était les caméras de surveillance. On les a fait déloger. On est allé acheter un immeuble sur le boulevard pour mettre les caméras là-bas, pour pouvoir sortir tout ce qu'il y avait dans cette partie de l'aile du musée pour tout récupérer, hein, tous les mètres carrés. Et puis on va faire un spa là-bas en bas. Pour qui, on ne sait pas.
Alors, on parlait des finances compliquées du Rassemblement national. Vous menez une campagne assez minimaliste. Hein. Votre document, ce que vous m'avez envoyé, c'est un document open office de 4 pages. Et parfois, on peut se demander sur des... Parce qu'il y a quand même assez peu de propositions et d'éléments de programme. Parfois, on peut se dire que ça frise même le degré zéro de la réflexion sur la ville. Comme par exemple, vous proposez la construction d'habitats avec jardin plutôt que des immeubles.
Franchement, déjà, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce qu'on a quand même pas mal de propositions. Et puis, si vous voulez, quand on est aussi après en responsabilité, on fixe des orientations et après, voilà, on voit ça au fur et à mesure durant le mandat. Mais là, on a quand même des clivages, des différences importantes par rapport aux autres listes. Et ça, je pense que c'est quand même notre spécificité, que ce soit sur la fiscalité, l'habitat, le commerce, la sécurité. Ça, vous ne pouvez pas dire qu'on n'apporte pas de propositions, parce que c'est vraiment des propositions vraiment, qui sont différentes des autres listes et des propositions concrètes. Donc ça, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Les gens nous demandent des petites maisons avec jardin. Pourquoi est-ce que les familles ne viennent plus? Parce qu'il n'y a plus que des cages à lapins, entre guillemets. Hein, allez voir boulevard de Cambrai, c'est une horreur. Les gens me disaient, mais vous avez, la mairie a construit une prison là-bas derrière. Donc les gens, si vous voulez faire revenir les gens sur Arras, ce n'est pas en leur donnant 20 mètres carrés dans un immeuble dans lequel on va entendre tout ce qui se passe à côté. Les gens veulent une petite maison avec un petit bout de jardin.
Enfin,
pour
si,
les familles.
Si les choses étaient aussi simples que ça, je pense que tout le monde ferait ça. Mais enfin, il y a aussi une question d'emprise
c'est une question d'argent.
Volonté politique aussi.
Bien sûr. Plus va... Alors, il y a, déjà, il y a 6 ans, il y avait 900 logements vides sur Arras. Je pense qu'ils y sont toujours. Et on continue de construire alors que la population baisse. Là, il faut me dire, il faut m'expliquer l'équation. Hein. Moi, je ne comprends pas tout. Je suis sûrement bête. Hein.
Hubert ?
Oui, moi j'ai été surpris sur le programme que vous nous avez fait parvenir de voir un petit chapitre consacré au bien-être animal.
Oui.
C'est la première fois que je vois ça sur le programme du Rassemblement National.
Ah bah, on n'a toujours pas été sensible à ces questions-là, donc je suis pas, franchement, c'est pas nouveau. Après, bon, ça dépasse aussi les clivages politiques. Hein. J'espère que les autres listes sont aussi sensibles à cette question. Mais voilà, on fait aussi des propositions, c'est aussi une compétence de la municipalité, aider les associations de protection des animaux, et de toute façon, il y a eu aussi des questions par rapport au cirque avec animaux sauvages, donc c'est aussi un peu de compétences municipales.
Ouais, j'allais y venir justement, quelle est votre position là-dessus sur...
Moi, je ne suis pas favorable, j'avais répondu à vos confrères, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait des animaux sauvages enfermés toute leur vie dans des cirques, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir ça aussi au niveau national, voilà, c'est... Parce que si on fait ça qu'au niveau local, il y a dans des villes c'est autorisé, dans d'autres villes ce n'est pas autorisé, c'est pas cohérent. Donc c'est une question qui devrait concerner au niveau, le niveau national et puis accompagner aussi les cirques dans leur transition. Voilà. Encore une fois, être pragmatique.
Au niveau écologie, là encore, c'est assez nouveau. Hein. Il y a quelques propositions, mais ça reste quand même très, très timide. Hein. Serre pédagogique, espace vert, potager partagé, du fait maison dans les cantines. Et puis de l'autre côté, il y a la favorisation des automobilistes, des automobiles en ville. Comment vous voyez ça, cette cohérence ?
Non, vous avez dit tout à l'heure que quand on parle d'automobile, c'est pas le tout voiture non plus, c'est un juste équilibre. Après l'écologie, désolé, mais ça vient de la droite. Philosophiquement, c'était le conservatisme, l'écologie, c'était la conservation, face au productivisme, le progressisme. C'est ça, et idéologiquement et philosophiquement, ça vient de la droite, c'est comme ça.
Ah bon,
c'est... Ouais, oui, tout à fait, bah, écoutez, je vous le dis. Vous renseignerez, vous verrez. On peut prendre les paris si vous voulez. Et puis de toute façon, c'est une question aussi qui devrait dépasser les clivages politiques. Tout le monde fait l'écologie, tout le monde est sensible. C'est absurde de dire que tel mouvement est écologiste et les autres ne le sont pas. Et
enfin, il y a quand même des propositions qui sont plus ou moins détaillées, plus ou moins avancées. On peut quand même.
Mais développer les espaces verts, les jardins partagés, enfin là, c'est des questions qu'on met en avant et que nous ferons, que nous appliquerons lorsque nous gérerons la ville.
Parler notamment de l'entretien rigoureux des espaces verts et de la voirie, l'abandon des produits phytosanitaires,
oui.
Une obligation. C'est vrai que les herbes folles se sont un peu développées partout. C'est pas très grave.
Non, mais ça, il faut voir ça aussi avec les jardiniers de la ville, voir comment on peut organiser ça pour qu'il y ait vraiment une présence plus importante des agents municipaux pour nettoyer la voirie. Mais je parle aussi, là, c'est parler de la voirie, c'est aussi avec les nids de poules, les trous. On a quand même, je vous parle de ça, c'est parce qu'on a eu beaucoup de remontées des habitants sur ces problèmes d'entretien de la voirie, puisque nous avons distribué déjà à l'époque un questionnaire, c'était en octobre-novembre, pour un peu la vie des Arageois. Et c'est vrai que ces questions-là nous sont souvent revenues sur l'entretien de la route, des trottoirs.
Des crottes de chiens.
Oui, mais tout simplement, même quand le macadam n'est pas fait, quoi. Voilà, quand il y a des trous, les personnes âgées, elles ont peur de tomber. Ces questions-là aussi, il n'y a pas que les crottes de chiens.
Alors la voirie, c'est une compétence communautaire. Justement, quel est votre regard sur le fonctionnement de la communauté urbaine et peut-être sur l'arrivée de Frédéric Le Turc au poste de la présidence de la communauté urbaine?
Ah bah, c'est une compétence. La communauté, donc c'est lié avec la municipalité, puisque de toute façon, quand on est élu au conseil municipal, on peut être aussi à la communauté urbaine. Et d'ailleurs, Frédéric Le Turc, actuellement, est vice-président de la communauté urbaine. Donc, il est aussi responsable de l'état de la voirie à Arras, justement. Nous verrons bien à l'issue des élections. Celui qui est élu maire d'Arras, c'est légitime qu'il se présente à la présidence de la communauté urbaine. Maintenant, il faut travailler en bonne intelligence avec les communes autour d'Arras. Maintenant, nous verrons bien, ça dépendra aussi des élections.
Vous trouvez légitime que le fait que le maire de la ville-centre soit aussi président de la communauté urbaine?
C'est légitime, mais il ne faut pas cumuler non plus. Parce que moi, j'estime, par exemple, si j'étais élu maire, je me présenterais certainement pour être président de la communauté urbaine, mais je ne ferais rien d'autre. Je ne serais pas en même temps conseiller régional ou à un autre poste. Voilà, c'est... Maire d'Arras et président de la communauté urbaine, ça peut être complémentaire, c'est vrai. Mais il ne faut pas accumuler d'autres fonctions électives.
Alban Euzel et Véronique Loire de la liste Rassemblement pour Arras, la liste soutenue par le Rassemblement National et Debout la France aux élections municipales à Arras. Ils étaient au micro de Radio PFM avec la collaboration d'Hubert Ferré, journaliste et chef de rédaction adjoint à La Voix du Nord Arras. Interview enregistrée vendredi dernier. Retrouvez cette interview sur notre site radiopfm.com avec aussi un compte-rendu écrit dans les pages de La Voix du Nord d'aujourd'hui. Demain, dans Info 30 sur PFM, dernier épisode de notre série d'interviews des candidats à Arras avec l'interview de Thierry Ocre. Le premier tour des municipales, c'est ce dimanche 15 mars. Et sur PFM, on vous proposera une émission spéciale en direct sur le 99.9, les résultats locaux. Réaction, analyse, commentaire, la prise d'antenne, c'est ce dimanche dès 19h30. Et puis je vous signale un fait de campagne consternant. Il s'agit de la dégradation et de l'apposition de tags antisémites sur des affiches de campagne, les affiches de la liste Décidée pour Arras. Donc apparemment, ce serait l'œuvre d'un groupuscule d'extrême droite nationaliste et royaliste.